présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Qu'elles se battent pour la voir. Annie lui dit, vous êtes tellement beau que vous êtes notre prince, notre dieu. Lui rit et lui dit, c'est vrai? Elle lui dit, c'est peut-être pour ça que nous sommes deux pour vous aimer. Béatrice lui dit, vous ressemblez à un dieu grec. Seuls les dieux grecs sont beaux. Eh, vous êtes beaux comme eux. Il lui demande, quel dieu? Elle lui dit, je sais pas, mais pas un barbu grognon. Non, un jeune et beau dieu. Peut-être Apollon. Non, Apollon est plus vieux que vous. Je ne vois pas. Je suis cherché dans mon livre. Oh. Oui, parce que pour nous, nous aimons mieux les dieux antiques que les religions tristes, monothéistes. Elle l'embrasse sur la joue. Elle lui dit, nous allons édifier un temple pour vous. Il lui demande, un temple? Mais, je suis dieu de quoi? Elle lui dit, de la jeunesse, de la beauté, de l'amour, tout ça, oui. Cliff les trouve un peu folles, mais les aime bien. Il est heureux et se dit qu'il se trouve dans un paradis. Il en oublie tout son passé, même la radio Frédéric et le pauvre monsieur de Jean-Ju. La guerre et les tueries aussi. Si on lui disait ce qu'il a fait en se battant avec une barre de fer contre 5 fous furieux, il ne le croirait pas. Tellement, il se sent bien au milieu de tout ça. Et puis, il ne se voit pas du tout se battre. Il est tellement doux. Et puis, il est devenu un délicieux objet de plaisir. Mais dans le sens, pas dans le sens sale, dans le sens gentil, oui. Un délicieux objet de plaisir dans le sens gentil pour deux jeunes filles un peu folles. Il est heureux, il ne s'aperçoit même plus qu'il est nu sous son peignoir. C'est vraiment le paradis sur terre. Il est guéri, hein? Et lui enlever son pansement, laver les cheveux. Annie a dit, il a des cheveux magnifiques. Ce n'est pas juste qu'un garçon ait des cheveux aussi beaux. Tu as vu? Ils ondulent, même lorsqu'ils sont courts. Béatrice lui dit, oui. Et toutes les deux lui donnent des caresses, lui caressent ses cheveux, comme si c'était quelque chose de précieux et délicat. Elle rit et chante pour fêter sa guérison. La guérison du Dieu. Béatrice sait un peu jouer de la guitare. Oui, elle sait un peu jouer de la guitare. Et Annie chante un peu. Béatrice dit à Cliff, j'ai regardé pour savoir qui pouvait être un dieu, votre dieu. Quel est le dieu que vous pourriez représenter? Et j'ai trouvé un demi-dieu. Cliff fait la grimace. Seulement un demi-dieu? Elle lui dit, oui, mais c'est le plus beau, le plus fort, le plus jeune. Achille, il lui dit, qui est-ce? Elle lui dit, tu sais, celui qui est invincible, on peut le tuer qu'en le touchant au talon. Cliff devient tout blanc, et s'évanouit. Il se réveille parce qu'on lui donne des petites tapes sur le visage. C'est Annie. Sa sœur, quel idiot tu fais! Tu lui as fait peur avec tes histoires de blessures. Il vient d'être blessé. Elle demande à Cliff, vous pouvez vous relever? Il est allongé à terre, il dit « Oui » et se relève et dit « Je suis désolé, une panique. Je rêve depuis toujours que je cours dans le sable. Il fait très chaud et je reçois une douleur terrible au talon. Au talon droit. » Regarde, Toutes les deux surprises, Béatrice dit « C'est peut-être Achille ressuscité ?» Annie lui dit « Idiote !» Béatrice lui dit « Les dieux sont immortels ?» Annie hausse ses épaules et lui dit « Mais Achille, non !» Et puis « Arrête, tu vas lui faire peur !» De Jean-Ju est invité à une soirée chez les Tremblants à Velasquez. Comme toujours, il y a beaucoup de monde à cette soirée. Monsieur de Jean-Ju va dire bonjour à Madame Tremblant, mais elle est avec Judith et une autre femme. C'est Mélusine. Elle parle à Judith et Madame Tremblant. Elle leur dit
mon fils m'a quitté il y a de cela plus d'un an. Je suis très inquiète à cause de sa santé.
Madame Tremblant lui dit
ne vous faites pas de soucis. Les jeunes gens reviennent bien vite lorsqu'ils voient la différence qu'il y a avec la vie douillette de leurs parents. Ils comprennent ce qui est mieux pour eux.
Madame de Courtois, Mélusine lui dit
il est parti, vraiment fâché. Et il est assez têtu. Il est parti forcher. Pourquoi ?
Mélusine lui répond.
C'est à cause de ces beaux lieux qui ont voulu le fiancer à leur fille et en plus l'envoyer en Afrique en pleine guerre. C'est bien de ça. Mon fils a été froissé parce qu'on le fiançait sans qu'il le sache et qu'on envoyait sa future se faire tuer en Afrique. Malheureusement, elle a cru que j'étais de mèche avec ces horribles gens. Moi, avec eux, jamais.
Je semble en dire. Calmez-vous, il reviendra. Calmez-vous, madame. Je suis sûr qu'il reviendra.
Judith, qui n'a rien dit jusqu'à présent, demande à madame de Courtois.
Il me semble que le père de votre fils a des origines particulières. Oui, si l'on veut. Mon ex-mari de Courtois était en réalité un arrière-neveu jeune tout. Mais il était obligé de changer de nom.
Parce que pendant une période de sa vie, il a eu une vie très tendue. Et il a été obligé de vendre tous ses biens. Même son nom, pour éviter la honte à lui et à sa famille.
Il dit toujours, votre fils est un jeune tout, et lui dit, peut-être le sang, mais pas de nom, hélas.
Oui, bien sûr, le fils de Jean-Jules qui a entendu la conversation spéciale à Judith, il veut lui parler, lui dit, excusez-moi. Et elle se retire. Et aujourd'hui, la suite, elle va sur le balcon.
Judith lui demande, vous avez quelque chose à me dire, monsieur Jean-Ju ?
Il dit, oui, Judith, j'ai entendu ce que vous avez dit. Et j'ai une information tout à fait intéressante à vous dire. Par hasard, j'ai rencontré le fils de cette dame.
Judith est surprise et lui demande comment?
Et vous en êtes sûr?
Jean-Ju lui raconte sa rencontre, l'invitation chez lui et la recherche qu'il a fait pour savoir quel signe avait ce jeune homme qui avait trouvé.
Je me disais qu'il était des nôtres. Son homme disait quelque chose.
Et là, j'ai trouvé. Et ce que je venais de dire à sa mère, et ce qu'a dit sa mère, je l'ai trouvé dans mes archives. Vous êtes sûr que c'est lui? Oui, il s'appelle Cliff. Au courtois, il zone un peu. Mais il est très bien. Elle lui demande. Il est bien chez vous? Oui. Et je lui ai offert l'hospitalisation. Hospitalité, excusez-moi. Chez moi, à Lyon. À Lyon, il est perdu. Il reste dans cette ville. Mais est-ce bien lui? Avez-vous son ADN? Non, je vais chez lui. Ce serait plus simple si vous pouviez vous amener à Paris son ADN ou amener le jeune homme. Mais ne dites rien à la mère. Je dois retourner de suite à Rome. Sa sainteté me demande. Et que veut-il encore? Il est vieux. Et sent bientôt sa fin. Je tiens à rester son confident jusqu'à la fin. Elle lui dit, vous avez raison, mais faites vite. La soirée se continue. On parle beaucoup de la guerre et même... Il y a une quête pour les blessés. Les jeunes filles ont créé une chorale. Elles sont infirmières bénévoles dans l'hôpital militaire Riquin de Paris, où les blessés qui viennent d'Afrique peuvent être soignés en France. Le gouvernement, pour montrer qu'il participe à la guerre, a donné à Riquin le palais de Versailles pour en faire un hôpital et un lieu de repos. Le jardin a été aménagé pour les blessés pour qu'ils puissent se promener et les ambulances et hélicoptères qui amènent les blessés. On a mis au petit Trianon un incinérateur et un coin pour prélever les organes à prendre pour la clinique Riquin. Les organes des décédés sont envoyés d'urgence un camion réfrigéré à la clinique Riquin. Malheureusement, il y a beaucoup de décès et on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on a besoin de beaucoup d'organes. On dit officiellement que ça provient d'une fièvre d'Afrique qui tue les soldats et surtout les blessés. Bien entendu, dans la soirée, on ne parle pas de ces horreurs. On fait la quête pour les blessés. Elle est faite par des jeunes filles habillées en uniforme d'opérette, charmantes et douces, et sentant bon et propre. Elles disent, c'est pour nos blessés, nos soldats. Et les femmes du monde donnent pour faire bien, les hommes pour faire plaisir à ces jeunes filles si délicieux. Après la quête, elles vont vers l'orchestre pour chanter un chant pour les blessés. Un immense drapeau tricolore sert de décor.
With the sound of music, with songs they have sung for a thousand years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. To sing through the night like a lark with learning to pray. Go to the hills when my
elles ont été beaucoup applaudies. Beaucoup, beaucoup applaudies. Et on a dit qu'elles étaient très émouvantes et qu'elles avaient beaucoup de mérite de s'occuper des blessés. En réalité, comme elles sont des jeunes filles du monde, on sélectionne les blessés pour elles. Pas trop blessées, propres et surtout de bonnes familles. De jeunes officiers, c'est très bien. Car l'on sait que leur mère les envoie, c'est pour qu'elles puissent trouver un mari. C'est de plus en plus difficile de trouver un jeune homme à marier avec cette guerre. Il n'y a que dans les hôpitaux militaires où l'on trouve des hommes à marier ou dans les maisons closes pour militaires. Mais là, bien sûr, il reste que quelques jeunes, mais bien jeunes ou malades ou pauvres. Alors l'hôpital de Versailles est très prisé. Et l'on a reçu l'ordre, c'est de servir le thé aux soldats, que les jeunes filles puissent le prendre avec eux. Quelquefois, pour distraire les soldats, et les jeunes filles aussi, il y a un orchestre. C'est un thé dans. Les jeunes filles ont l'impression d'être des héroïnes de roman et de vivre une aventure avec un soldat qui a risqué sa vie. C'est mieux que pendant la paix où l'on ne fréquente que des jeunes gens, étudiants ou directeurs. Et puis, il y a l'uniforme, c'est mieux que le costume. La guerre a tout de même du charme pour ces jeunes filles. Certaines mères disent à leurs filles, « Vous en avez de la chance, vous, que l'on soit en guerre. » Pendant la soirée, la femme à tête de cheval, toujours en robe verte longue, dit à Mademoiselle Lapin en robe rouge, moulante et nue dessous, comme Judith, son idole, moi, j'ai demandé à être une infirmière aussi, mais on n'a pas voulu de moi. Je suis sûr que c'est Jacques qui a tout fait pour qu'on ne le prenne pas. Il est très jaloux, vous savez, disait la panier. Il a raison. Mon Dieu, l'armée française est très belle. Et où est Jacques? La femme à tête de cheval. Oh, je le vois. Il est avec des infirmières. Jacques, Jacques. Viens ici, Jacques, Jacques. Elle laisse Mademoiselle Lapin. La soirée se continue. Monsieur de Jean-Jus, le lendemain matin, part pour Rome en train. Arrivé à Rome, il va directement voir le pape au Vatican. On le mène aux appartements privés du pape. Le pape le reçoit dans son salon. Le pauvre, il est bien ratatiné. Ratatiné. Monsieur de Jean-Jus va à lui. S'agenouille. Le pape lui demande « Comment allez-vous ?» De Jean-Jus va s'asseoir en face de sa sainteté.
« Vous désirez du café ?»«
Oui, votre sainteté. » Le pape appuie sur la sonnette pour faire venir un domestique et dit à M. de Jean-Jus
« Je suis très surpris. Il s'est passé quelque chose à Montrion, à ce lac. Il y a de cela un an et demi. Les signes ont été vus du ciel. Des étoiles se sont réunies à l'heure de la prédiction. Mais nous l'avons su trop tard que la chose avait été faite. Lorsque nous sommes allés là-bas, d'après notre enquête, la personne avait disparu. Que faire ?
On frappe à la porte. Le pape dit « Entrez ! » Entre un jeune prêtre. Le pape lui dit
« Mon petit Frédérico, apporte-moi pour deux personnes le café. »
Charmant jeune homme en soutane noire se retire.
Monsieur de Jean-Jus dit au pape « Votre sainteté, le hasard, la providence qui est avec nous, m'a fait rencontrer cette jeune personne et elle est chez moi. »
Le pape est surpris, il demande
« Comment ? C'est impossible. » Entrez.
C'est le charmant jeune prêtre qui apporte le plateau de café et le dépose devant le pape sur une table basse. Et fait le service.
Puis Jean-Jus lui dit « Un doigt de lait, s'il vous plaît. »
Merci.
Le pape dit, comme d'habitude, mon petit.
Il tapote la joue de ce charmant petit prêtre.
Une fois qu'il ait fait le service, le prêtre se retire.
Et ils boivent en silence.
Le pape demande « Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit ? La prédiction s'est accomplie au jour et à l'heure prévu, à l'endroit qu'elle devait avoir lieu. Nous avons spéculé sur la carte et nous sommes tombés, comme prévu, sur le lac de Montrion. Malheureusement, nous avons été prévenus trop tard. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, il n'y avait plus personne. Et vous me dites que vous avez cette personne chez vous ? »
Que Jean-Jules lui dit.
« Oui, votre sainteté. j'ai rencontré une personne, par hasard, qui a le nom et le physique de celui que l'on sait. »
Le pape lui dit,
« Jeune tout. Non, recours-toi. Eh bien, ce n'est pas ça. Si votre père, pour son père, pour des raisons financières, a dû changer de nom. Mais il s'appelait Jeune Tout. J'en suis sûr. J'ai fait mes recherches, votre sainteté. »
Lui dit,
alors, c'est un miracle. Et comment est-il?
Jean-Jules lui dit,
il ressemble beaucoup aux autres par sa distinction, sa taille, ses cheveux. Il est délicieux.
Le pape lui dit,
oui, je sais, c'est que vous aimez bien la perfection, disons. Mais,
Jean-Jules lui dit,
il a toutes les qualités pour être celui que l'on attend. Comme les autres, les ont aussi, malheureusement. Et ce sera délicat à savoir si c'est vraiment lui.
Le pape lui dit,
mais lui a eu le signe.
Le Jean-Jules lui dit,
je ne sais pas si ce signe est suffisant pour que ce soit lui. Il y a eu transition, mais pas autre chose. Celui qui est entré en lui n'était pas vraiment un dieu.
Le pape lui dit,
on ne parle pas de ça dans cette maison. Les dieux sont officiellement morts.
Et de Jean-Jules lui demande,
que faisons-nous?
Le pape lui dit,
vous le gardez près de vous. Et comme vous faites avec les autres à Paris, il faut le surveiller d'après la prédiction. On va vouloir le détruire. Le mal va donner l'ordre à qui l'on sait pour qu'on le détruise. S'il sait qui il est, donnera les ordres à ses soldats pour le détruire.
Jean-Jules lui demande,
comme les autres?
Le pape lui dit,
non, le mal ne les cherche pas, car ils ont le mal en eux, ou le mal ne peut rien contre eux. Mais lui, il peut le détruire et nous détruire. Parce que s'il est celui que l'on croit, il peut nous détruire. Il peut le détruire parce qu'il a reçu l'esprit de l'autre en traversant les siècles. Gardez-le près de vous. Mais si nous sommes sûrs qu'il n'est pas ce que l'on sait, pour préserver les autres et nous-mêmes, laissons le mal le détruire. Comme ça, le mal nous laissera en paix. Tant que nous ne savons pas, il nous est précieux. Il faut le protéger. Il protège ce que nous sommes. Il est bien chez vous. Oui, votre sainteté. Bien. Amenez-le à Paris. Oui, il sera mieux à Paris.
Et M. de Jean-Jules, le lendemain, repart en train pour Lyon. Le trajet est long et pénible. Arrivé à Lyon, il prend un taxi pour rentrer chez lui de suite. Il demande à Martin.
Où est Cliff ?
Martin lui dit. Le jeune homme a disparu depuis quelques jours.
Monsieur de Jean-Jules furieux demande. Comment ça a disparu ?
Eh bien, il est parti se promener comme tous les après-midi et n'est pas revenu.
De Jean-Jules est furieux. Vous avez prévenu la police ?
Non, monsieur. Je n'ai pas prévenu la police. Je n'ai pas osé. Peut-être que monsieur n'aimerait pas que l'on sache qu'il a un jeune homme chez lui.
Jean-Jules hausse ses épaules et lui dit « Imbécile, tu viens de perdre la chose la plus précieuse du monde. Le pape va être furieux. »
Martin ne comprend rien. Il dit « Je suis un vrai monsieur. »
Monsieur Jean-Jules lui dit « C'est terrible. S'il lui arrive quelque chose. »
Vite, monsieur de Jean-Jules va dans la chambre à coucher de Cliff. Il voit qu'il a laissé ses affaires, ses vêtements, son sac et même sa carte. Il fout dans la poche de ses vêtements pour savoir où il peut être. Dans son sac de voyage. Et là, il voit un papier où est marqué « Hôpital Saint-Joseph Riquin ». Il se souvient que Cliff lui avait dit qu'il avait un ami là-bas et qu'il fallait qu'il le voie. Prend le papier et vite il va à son bureau. Prend son téléphone et fait le numéro de l'hôpital. Saint-Joseph Riquin.
Allô, hôpital Saint-Joseph Riquin.
Oui, monsieur.
Je suis monsieur de Jean-Jules et j'aimerais parler à...
Regarde sur le papier.
À monsieur Frédéric Dampierre. J'arrive pas à bien voir le nom, mais ça doit être un nom de ce genre.
Elle lui dit, il faut que vous me disiez votre nom pour l'ordinateur. Monsieur Dampierre un appel téléphonique de
monsieur de Jean-Jules.
Oui, monsieur de Jean-Jules, ami de monsieur Franblanc et du pape.
Elle lui dit,
vous moquez de moi. Monsieur, je ne suis pas. Ce n'est pas une plaisanterie, non. On ne plaisante pas ici.
Il lui dit, non, je vous jure, madame.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je marque quoi? Allez, dites-moi, monsieur de Jean-Jules veut voir le pape qui est dans la chambre 521, chirurgie.
Mais,
il fallait me le dire, monsieur. Vous me faites perdre mon temps. Les infirmières sont débordées, vous le savez bien, depuis le reportage de Zone Interdite de M6. Je vous passe la chambre.
Ça sonne. Puis l'on décroche. Ce Jean-Jules fait
« Allô ?»
Il entend
« Allô ?»
Ce Jean-Jules lui dit
« Vous êtes... Frédéric ?»
Il entend
« Qui ? Comment ? Moi, Frédéric ?» Non, je ne suis pas Frédéric. Je suis madame Terrier. Pourquoi est-ce que vous me dérangez? Je vais me plaindre à monsieur Michel Mercier. au maire de Lyon, au chauffeur du 61. Je suis sûr que vous êtes un alim.
Monsieur de Jean-Ju se dit que c'est une folle. Il lui dit
« Bien, madame. Au revoir. »
Elle lui crie.
« Si, mais ça ne se passera pas comme ça. Déranger une malade pour rien. C'est comme les gens qui appellent à l'interphone pour entrer dans l'allée. Moi, ça ne marche pas avec moi, ça. Je vais me plaindre, moi. Et puis, peut-être que vous êtes un témoin de Jéhovah ou un sadique. Un sadique. Oh, sadique. Oh, sadique. »
Monsieur Jean-Ju raccroche.
Il se dit qu'on n'arrive pas à se faire comprendre avec ce foutu téléphone, que c'est une invention pour le peuple, mais non pour les gens du monde, à moins que l'on soit Sacha Guitry. Il se dit qu'il n'en sait pas plus.
Faudrait peut-être appeler la police, ou plutôt aller la prévenir. Mais là, tout le monde va savoir, et même ceux qui lui veulent du mal. Le pauvre petit, il risque la mort et le sait même pas. Moi, je ne sais toujours pas qui il est et où il est. Il est peut-être prisonnier. Que faire? Il n'y a que Paris qui peut se faire, qui peut faire quelque chose.
Il décide de partir pour Paris le lendemain matin. Oui, c'est la meilleure chose à faire.
Eh, dit à Martin.
Si vous avez des nouvelles, vous me téléphonerez à mon hôtel, place de l'Étoile à Paris.
Bien, monsieur.
Et monsieur de Jean-Ju, le lendemain matin, est parti à la gare de la Part-Dieu pour prendre un train pour Paris. Ce trajet est long et en plus il pleut. Arrivé à la gare de Lyon, il se fait mener au siège Tremblant pour aller voir à son bureau Judith. Arrivé au siège, il va à la banque. L'hôtesse est une belle blonde, d'ailleurs rouge, nue dessous. Mannequin.
Il dit, bonjour mademoiselle, j'aimerais parler à mademoiselle Judith Lay.
Elle lui dit, vous avez rendez-vous?
votre nom, monsieur de Jean-Jules. Votre carte. Bien. Bien sûr.
Il donne sa carte, l'hôtesse la met sur l'écran.
Votre pouce, il le met.
Apparaît.
Regarde.
L'identité de monsieur de Jean-Jules avec sa photo. Voit la photo de monsieur de Jean-Jules et tend la carte et nous dit.
Vous voulez voir la directrice des relations humaines? Tu vois, si elle peut vous recevoir, elle est très occupée, vous savez.
Elle prend son téléphone et fait un numéro. Le numéro de Judy.
Allô? Bonjour? Maryse. C'est moi, Denise. Oui, je suis à l'accueil aujourd'hui. Dis, j'ai une personne qui désire voir ta directrice.
Regarde pas, regarde.
Non. J'ai pas essayé les pilules. Un m'insistante pour toi. Mais il paraît qu'elles sont très bonnes. Bon, dis. Lui. C'est un dénommé, monsieur.
Regarde pas.
De Jean-Jules. Bon, j'attends. Bon. À la cantine, alors. À tout à l'heure. Je t'embrasse.
Elle raccroche et dit.
Elle peut bien vous recevoir, monsieur.
Elle fait signe à une jeune fille, blonde d'un tailleur rouge, du dessous. Elle lui dit,
amenez monsieur au bureau de la directrice des relations humaines. Elle l'attend.
Elle dit à monsieur de Jean-Jules.
Si monsieur veut bien me suivre.
Et il suit cette charmante jeune fille.
Regarde pas. Regarde.
Cette jeune fille qui ondule et roule ses hanches. Elle le fait entrer dans l'ascenseur.
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.